au réseau Cogeco. Mario Langlois rencontre.
Bien le bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue au rendez-vous qu'on vous propose cette semaine. Une immersion dans l'univers du patinage artistique et surtout dans celui de Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon, qui sont ensemble depuis toujours, on dirait, qui reviennent tout juste de la Corée du Sud, où ils ont accompagné deux couples vers un podium olympique en danse, bien sûr, en patinage artistique. Marie-France et Patrice, bonjour et bienvenue dans nos studios.
Hey, bonjour.
Bonjour.
Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Je crois pas que je vous ai en face de moi alors que vous étiez dans mon écran de télévision il y a à peine 48 heures ou quelques heures seulement. Donc, comme Patrice nous le disait au téléphone, des responsabilités vous ramenez au pays assez rapidement. Hein?
Oui, on a des championnats du monde à préparer. Les Jeux olympiques viennent de terminer, mais pour nous, ça continue parce qu'il y a les championnats du monde junior dans 10 jours, puis les championnats du monde le 18 mars à Milan. Donc, c'est reparti.
Patrice, t'étais content toi, de revenir en ce sens que retrouver le travail, tu me disais que pour retrouver ta routine, finalement, c'est la meilleure affaire qui pouvait arriver?
Ben, je trouve, pour se remettre du décalage horaire, le plus facile, c'est vraiment de commencer à travailler. Quand tu restes à la maison, ben là, t'es fatigué, tu te reposes un peu, puis là, c'est encore plus long à te remettre. Le plus facile, c'est juste de pousser ça le plus loin possible pour redormir pendant la nuit.
C'est encore tout frais, là. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'images qui vous tournent en tête de tout ce que vous venez de vivre?
Oui, parce qu'en fait, on a vécu, bon, la victoire de Tessa Virtue, Scott Moyer. Il était 4 heures de l'après-midi une fois que tout a été fait. Et puis, 12 heures plus tard, on était déjà en train de faire les valises, puis dans un train pour Séoul pour le retour. Donc, on dirait que on a voyagé pendant que le buzz est encore frais de la victoire, de tout ce qui s'est passé pendant les 19 jours aux Jeux olympiques. Et puis là, en laissant retomber la poussière un peu, le corps a envie de se reposer, mais la tête est remplie de super belles images puis de belles émotions qu'on a vécues.
C'est quoi les images qui sont les plus fortes, Marie-France, là, que tu peux pas t'enlever de dans la tête, là?
La joie de l'accomplissement, ouais, de mes élèves. Ouais, les yeux brillants, puis quand tu sais que t'as tout donné puis t'as tout laissé sur la glace au moment où ça comptait, ça c'est grand. Puis pour un entraîneur, je pense que c'est ça qu'on cherche on entraîne nos jeunes pour qu'ils arrivent à ce moment-là, tu sais, où tout s'aligne puis que le jour J, la performance soit parfaite.
Dans ton cas, Patrice?
Moi, je pense que c'est de voir nos couples, nos trois couples patiner un après l'autre dans le dernier groupe, parce qu'en danse sur glace, c'est tu patines en ordre inverse, fait que les voir vraiment, savoir qu'on est trois meilleurs couples au monde, puis les voir patiner un après l'autre, puis qu'on ait à s'échanger les postes d'entraîneur, puis pendant qu'on est au jeu, je trouvais ça vraiment cool, c'est vraiment le fun.
Hey, moi, là, j'ai juste regardé ça dans mon salon, là, puis tu dis ça, là, puis tu sais, ça me donne le frisson, tu t'imagines? Parce que vous autres, ça devait être vraiment spécial après le programme court, là. Vos trois couples occupaient les places 1, 2 et 3. Bon, finalement, ça finit 1, 2 et 4, mais waouh, tu peux pas ben demander mieux. Il manquait pas grand-chose pour la totale, Marie-France. Je sais que c'était... Tu en avais parlé un peu avant les Jeux, c'était le rêve, hein?
Oui, c'était notre rêve, puis ça a jamais été fait. En fait, on aurait fait l'histoire. Ça a jamais été fait. Après les championnats du monde de l'année passée, on a commencé à voir que ce serait une possibilité d'avoir trois coupes sur le podium, de faire un podium sweep, comme ils disent en anglais. Donc, on a vraiment mis notre focus là-dessus. On a entraîné les trois couples, on les a entraînés pour gagner. On n'a pas entraîné un pour être deuxième puis un pour être troisième. On les a entraînés tous les trois pour gagner. Et puis, franchement, ils nous ont rendu pas mal fiers quand on est arrivé au jeu après le programme court, qu'il soit 1, 2, 3. C'était un grand moment de fierté pour nous.
Et c'est spécial que tout ça, qu'on réalise que tout ça, ça soit préparé sous l'échangeur turco, finalement, je dirais à l'abri des caméras et des regards. Bon, il y en a qui le savent dans le monde du patinage artistique, ça s'est su. J'ai vu des articles un peu avant les Jeux, mais là, le secret, si secret il y avait, éclate au grand jour. Patrice, c'est assez spécial, pareil, de réaliser que les meilleurs ou certains des meilleurs patineurs au monde ont choisi de s'entraîner ici avec vous autres.
Ben, c'était le but. C'est pour ça qu'on a commencé l'école. On a commencé parce que nous, on a dû déménager à Lyon, en France. Puis au moment où on est
parti... Quand vous patiniez.
Ouais, quand on s'entraînait. Puis je me rappelle encore, puis on s'était parlé de ça, c'est qu'on ne pouvait pas croire qu'on devait partir de Montréal, du Québec, où ce qu'il y a, juste sur l'île de Montréal, il y a, je pense qu'il y a 80 patinoires, il y a 40 patinoires dans la France au complet, fait que ça, pour nous, ça faisait aucun sens d'un pays comme le Canada, c'est probablement notre deuxième sport national, puis devoir aller s'entraîner ailleurs. Pourquoi on ne peut pas s'entraîner ici à Montréal? Pourquoi il n'y a pas de centre au Canada? Dans ce temps-là, il n'y en avait même pas au Canada. C'était pas une option. C'était soit en Europe, en France ou aux États-Unis. Fait que c'était notre but premier quand on avait à prendre notre retraite, de faire sûr qu'il y ait un centre à Montréal. Puis que si les gens veulent s'entraîner ici, mais qu'il y avait le choix.
On parle de l'entraînement de très haut niveau, là, un centre pour l'excellence.
Bon. Oui, vraiment, là. Quand on va faire un podium olympique presque au grand complet, on devine que c'est l'élite. Mais sinon, vous autres, votre carrière de patineur et de patineuse, là, en couple, à partir du moment où vous avez atteint les niveaux de grosses compétitions, je veux dire, vous l'avez passé dans vos valises, votre vie, en quelque sorte, là. Hein? C'est à partir de quel âge vous avez commencé à voyager puis à aller vous entraîner à l'extérieur du pays, notamment?
On était quand même déjà dans la vingtaine, vingtaine, mi-vingtaine quand on s'est en allé en Europe. Donc on était, tu sais, on était des late bloomers. On est arrivé un petit peu plus tard à nos buts finalement, mais aujourd'hui, je sais que tout ce qu'on a vécu dans notre carrière, les voyages en Europe, les tournées, les Jeux olympiques, tout ça. Sans avoir vécu ça, on serait pas les entraîneurs qu'on est aujourd'hui. Donc ça a été un passage obligé, je pense, pour avoir l'école internationale qu'on a maintenant.
Vous saviez pas que ça allait devenir finalement le résultat de tout votre cheminement, mais voilà que vous y êtes et vous êtes des entraîneurs maintenant renommés internationalement. Je disais à la blague à Patrice quand on s'est parlé au téléphone il y a deux jours, j'ai dit là, le téléphone doit pas dérougir, mais je comprends que c'était le cas avant les Jeux également, parce que là, c'est ça le comble là, hein, à votre école, Patrice?
Oui, on a déjà plus de place dans les deux dernières années. On avait déjà refusé beaucoup de coupes. Parce qu'on peut pas juste prendre tout le monde, faut quand même respecter les élèves qu'on a, puis être capable de leur donner eux de la qualité puis du temps. Sinon, ben il y a beaucoup d'écoles, puis dans notre milieu, on voit souvent des écoles monter, descendre, parce que principalement ça, tu deviens le succès, ben tu prends du monde, tu vas pas dire, tu sais, il y a des jeunes qui t'appellent qui veulent s'entraîner chez vous, des fois c'est vraiment dur de dire non.
Et ça doit.
Mais si t'as plus de temps à donner à tes athlètes, puis t'as plus de temps de bien les entraîner, mais là, le produit puis la qualité est plus là.
Ouais, faut être capable d'offrir de la qualité, puis on est un petit peu contre le travail à la chaîne. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire avec chaque couple, c'est déjà de nourrir leur envie de créer leur style, nourrir leur envie d'aller plus loin, de se pousser. Mais ça prend du temps à développer cette relation-là avec des jeunes. Donc, là, en ce moment, on a 17 couples. 17 couples à temps plein. Il y en a, bon, on a des Anglais qui viennent à temps partiel. Tu sais, on a quelques couples à temps partiel, mais on a 17 à temps plein. Puis
tous de l'international?
De 9 pays différents.
Oui.
Ouais. Donc, ça fait quand même déjà beaucoup. Avec seulement 2 glaces, on a plus beaucoup de place pour prendre notre monde, là, je t'avoue que...
Vos élèves, comme le jeune couple français qui a terminé sur la deuxième marche du podium, composé de Mademoiselle Papadakis et de Monsieur Cizeron, eux autres, et comme les autres, parce que dans le fond, Tessa et Scott, c'est pas des résidents de Montréal comme tel, donc ils déménagent vraiment, je veux dire, pour une couple de semaines, ou sont là à l'année, là, comment ils se sont préparés aux Jeux olympiques?
Sont là à temps plein. En fait, Gabi et Guillaume, les Français, sont à Montréal depuis juin 2015, qu'ils se sont installés là. C'est sûr que à cause des compétitions et des différents déplacements, ils rentrent en France où ils vont, mais
leur pied à terre, là, presque permanent, c'est maintenant Montréal, le temps de se préparer à ça, puis ils vont revenir pour, j'imagine, un autre cycle olympique.
Oui. Ça, c'est le but. Bon, s'ils sont toujours heureux à Montréal, puis si on continue à bien les faire évoluer, ils vont rester à Montréal jusqu'au prochain jeu. Ouais.
On fait vivre l'économie de Saint-Henri.
De Saint-Henri, ça, c'est
sûr. Êtes-vous fier d'être là? Parce que c'est vrai que, bon, c'est un quartier qu'on est en train de revitaliser, puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui avancent, mais d'être au cœur d'un quartier comme ça, est-ce qu'il y a une fierté aussi d'être là, de participer à ça? Ou...
Ben, c'est un quartier qui est assez intéressant, qui vraiment, là, en ce moment, il y a plein de nouveaux restaurants. La vue Notre-Dame ça développe. Puis, c'est,
puis pour nos cool. jeunes qui sont tous de l'étranger puis qui n'ont pas de voiture, le canal, c'est pratique aussi. Là. Le canal, on est proche de l'aéroport, on est comme mi-chemin entre l'aéroport et le centre-ville. C'est assez bien placé pour un centre international.
Je ne sais pas, je pense qu'on peut juste tenter d'imaginer combien d'heures d'entraînement, qu'est-ce que ça comporte exactement que de se préparer à avoir une forme puis une livraison qui permette d'aspirer un podium. J'aimerais ça qu'on aborde cet aspect-là du travail que vous avez accompli avec les couples qui ont participé aux Jeux olympiques et tous les autres. On est avec Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, eux-mêmes patineurs en couple, bien sûr. Ils ont gagné l'argent dans les championnats du monde, participation à 2 Olympiades. On revient tout de suite après la pause que voici.
Mario Langlois rencontre au réseau Cogeco.
Nous sommes de retour, nos deux invités cette semaine, Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon, à peine revenus de Pyeongchang en Corée du Sud, où ils ont accompagné des couples, 3 couples dans la compétition de danse sur glace. Presque vers le podium, 2 des 3 ont fini sur le podium, le couple américain, 4e. Avez-vous aimé les Jeux de Pyeongchang, si je vous demande l'impression générale que ça vous a dégagé là-bas en Corée du Sud?
Ben, moi, c'est la première fois que je vais aux Jeux en tant qu'entraîneur. Patrice est allé à Sochi avec notre couple espagnol, donc lui, il a un petit peu plus d'expérience que moi à ce niveau-là, mais j'ai trouvé que tout était très très facile d'accès, comme le village était seulement à 12 minutes de la patinoire. La patinoire d'entraînement était dans le sous-sol, la patinoire de compétition. Donc, ça rendait les allers-retours entre le village et les lieux d'entraînement puis de compétition très faciles. Puis le village était très correct. Il y a eu beaucoup de vent. Il faisait quand même assez froid. Mais nous, on fait pas du sport à l'extérieur, fait que ça nous touchait
ça
pas
touchait
particulièrement.
Pas,
ouais. Non, non.
Auriez-vous souhaité des gradins plus garnis?
Les gradins plus garnis. J'ai trouvé l'atmosphère un peu. C'est pas une super atmosphère. Si je compare avec Vancouver, avec Sochi, avec Turin, puis Salt Lake, puis je pense que c'est principalement parce que c'est pas des grosses villes. Nous, en fait, les jeux de où ce que le patin et le hockey se trouvent, c'est pas à Pyeongchang, c'est à Gangnyeong. Puis c'est vraiment une petite ville, il y a le centre-ville, il y a pas grand-chose qui se passe. Fait que côté atmosphère, c'est pas...
Ouais, puis c'est des gros c'est pas amateurs Vancouver, de short track. Hein. Pour le short track, il y avait quand même plus de monde. Mais
difficile de créer une ambiance magique, hein, je pense, pour des grandes performances olympiques, parce que Dieu sait qu'on a eu des grandes performances.
Oui, puis les compétitions, nous, ça commençait à 9h30 le matin. En pleine semaine, donc...
Je sais pas si ça va être tard en Corée du Sud, mais il y a peut-être ça de bonne heure un peu. Hein?
Ouais, c'est ça. Mais par la fin des groupes, normalement, il y avait une meilleure ambiance. C'est sûr que ceux qui patinaient très tôt dans la compétition, il y avait moins de monde dans les gradins. Mais les performances en patinage ont été assez exceptionnelles.
Ouais, tu trouves vraiment, parce que vous avez participé à 2 Jeux olympiques vous-même en couple, vous en avez regardé avant puis après, puis tu trouves que tu places ça où en termes de niveau de performance?
Ah, moi, je pense que c'est les plus forts. Côté spectacle et de performance du groupe au complet, si tu regardes le dernier groupe ou les 2 derniers groupes, dans chaque discipline, il y a eu des performances incroyables. Chez les filles, c'est qu'il y a eu lieu hier, c'était juste
vraiment
magique. Record du monde par-dessus record du monde. Chez les couples artistiques, record du monde par-dessus record du monde. En danse, record du monde par-dessus record du monde. Chez les hommes, record du monde aussi. C'était à chaque événement, c'était spectaculaire.
Non, puis à part pour les filles, je pense que ça a vraiment été des jeux où est-ce que les vétérans ont juste posé leur performance avec une assurance puis un calme puis une grâce qui était remarquable. Parce que dans la saison avant, comme chez les garçons, il y avait le petit Nathan Chan, tout le monde pensait qu'il y avait l'aura du champion olympique, tout le monde disait ça va être les Jeux de Nathan. Puis finalement, quand ça a été le temps de rendre la performance, mais c'est les 2 vétérans, là, le japonais puis l'espagnol, qui ont vraiment fait la job, mais d'une façon magistrale, là, tu sais. Mm-hmm. Pareil pour les couples. Il y avait le petit couple chinois. Tout le monde pensait que ça allait être les champions olympiques, mais c'est les Allemands. Elle, c'était ses 5e jeu.
Puis, avec Meghan, son nouveau partenaire.
Puis Meghan et Eric, les 2 couples vétérans qui ont vraiment livré la marchandise de façon encore...
C'était impeccable.
C'était vraiment cool à regarder, là, de voir que... Avec le stress puis la pression, ça se voyait ceux qui avaient de l'expérience puis qui livraient au moment où c'était important, quoi.
Vous autres, vous le savez parce que vous vous êtes préparé vous-même comme athlète pour participer à deux Jeux olympiques. Maintenant, comme entraîneur, on n'a pas idée. Puis j'aimerais ça entrer un petit peu dans le travail qui s'est bâti, qui s'est préparé ici même à Montréal, à votre école de patinage. Qu'est-ce que ça représente la dernière année ou une année normale pour des patineurs d'élite qui visent un podium, Patrice? Ça ressemble à quoi un horaire d'une semaine pour Tessa Virtue et Scott Moyer, par exemple?
Et c'est pas quelque chose qui se prépare la dernière année, c'est vraiment quelque chose à l'année longue. Là. C'est un cycle de 4 ans où, pour pouvoir faire une année de compétition, c'est une saison entière. Ça commence pendant les vrais gros entraînements, ça commence l'été. Puis une journée normale, type d'entraînement, c'est minimum 4 heures de glace, entraînement sur la glace. Après ça, ben, ils ont tous des entraînements physiques avec un peu des préparateurs.
Est-ce que vous êtes seul sur la glace avec un couple quand tu pars de 4 heures?
Non,
il y a toujours à peu près 4-5 couples sur une glace. Rarement plus que 5, sinon ça commence à être dangereux.
Ben, surtout sur le haut niveau, c'est quand même, ils patinent assez rapidement, ils prennent l'espace, donc plus que 5 coupes, ça serait dangereux.
Et ces fois, on va leur mettre là, c'est quelque chose de particulier avant les Jeux, justement, quand, avant les grosses compétitions, on va les mettre plus tout seul sur la glace pour leur donner plus de temps à eux-mêmes. Puis il va toujours avoir un entraîneur avec chaque coupe, à peu près. Fait qu'il y a toujours au moins 3, 4, 5 entraîneurs sur la glace.
Fait qu'on, 4 heures de glace. Ouais. Avant d'embarquer sur la glace, y a-t-il quelque chose qui précède ça?
Ouais, ils vont s'échauffer pendant 45 minutes ou une heure. Ils vont faire des portées hors glace. Après ça, il y en a qui vont faire du balai, soit avant ou après leur entraînement. Il va y avoir des cours de danse hors glace, qui soit du hip-hop, de la danse contemporaine.
Ils font de la musculation. Tessa faisait beaucoup de pilates parce qu'elle avait un problème là, à ses jambes. C'est une situation qui s'appelle compartment syndrome. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est le fascia de la jambe qui est pas assez flexible pour laisser la place aux muscles. Fait qu'elle, elle faisait beaucoup de pilates pour éviter de rencontrer des problèmes avec cette condition-là.
Parce qu'ils ont tous des préparateurs mentaux.
Oui.
Au quotidien, c'est au quotidien.
C'est sûr que c'est pas toujours au quotidien. Comme l'entraînement physique, dépendant de la saison, en préparation, comme en été, ça va être plus être 4 fois semaine. Vers la fin des saisons, comme avant d'aller au jeu, là, c'était plus 2 fois semaine. Après ça, préparation mentale, ben là, ça dépend de leurs besoins, s'ils ont des crises ou des genres de stress, mais c'est au moins une fois ou deux par semaine.
Chaque athlète, on crée un plan avec eux d'après leur plan de compétition. Puis c'est où les moments qu'on veut piquer, comme avec Tessa Scott, on les a entraînés 20 mois. Puis on avait préparé, on a un plan sur les 20 mois pour que leur point de pic soit aux Olympiques en 2018.
Ça devait être vraiment gratifiant parce que j'ai lu, puis je sais que vous autres, vous en êtes pas trop vantés, puis c'est fidèle à votre image, mais j'ai lu des articles où Scott Moyer et Tessa Virtue expliquaient pourquoi ils avaient souhaité travailler avec vous autres. J'ai abordé un petit peu le sujet au téléphone dans l'entrevue que Patrice nous accordait cette semaine, mais je trouvais ça vraiment, très, très éloquent. Il n'y avait pas d'autre avenue pour eux autres que de travailler avec vous autres. Comment vous avez accueilli ça, puis le mandat, puis la pression aussi de livrer la marchandise qui venait avec, là, c'était meilleur. En tout cas, il avait gagné en 2010, là.
Ben, écoute, t'es le seul qui a évoqué un peu le stress que ça nous a causé d'avoir cette demande-là, parce que c'est sûr que nous, on était une jeune école, on est encore une jeune école quand ils nous ont demandé de venir à Montréal. Ça faisait à peine 5 ans que l'école était commencée. Bon, on avait déjà Gabi Guillaume qui était champion du monde en titre. Mais d'accueillir Tessa Virtue, Scott Moyer, qui avait été champion olympique et vice-champion olympique à Sochi, c'est comme si on fait moins que champion ou deuxième, on rate notre coup, là. Tu sais, ça sera pas bon pour nous.
Ça vous rappelait la pression de vos compétitions, j'imagine, un peu.
Hein? Comment tu les rends meilleurs aussi, comment tu les rends meilleurs?
La marge, il y a plus beaucoup de marge de manœuvre, là, tu sais. On a 20 mois pour faire des ajustements qui vont faire que, OK, des petits trucs techniques, mais...
Scott voulait se dépoussiérer un peu, j'ai bien compris. Hein? Il voulait arriver à quelque chose de nouveau. Hein? Non?
L'avez-vous amené vers quelque chose de nouveau? Ils se sont entraînés dans des écoles russes qui avaient un style très classique, très... Bon, mais eux, ils ont toujours eu un style un peu romantique, etc., qui ressemble un peu à ce que nous, on faisait aussi. Je pense que... On les a un peu influencés là-dedans.
Ouais. Ou ce qui ont accroché beaucoup, on me rappelle vraiment au mois de mai, il y a 2 ans. C'était vraiment, on faisait, parce que l'été, c'est là qu'on retravaille les bases, puis on s'était mis pour, quand ils sont venus au début, on a dit, bon, ben, on va faire un essai d'un mois, voir si on a vraiment envie de se mettre au travail de tout ça, puis où ce qu'ils ont vraiment accroché, c'est juste à refaire vraiment de la base. Nous, on appelle faire ça du stroking, mais vraiment réapprendre à glisser, réapprendre à pousser, réapprendre, et c'est là qu'ils ont vraiment accroché. Juste,
parce que c'est du travail qu'ils avaient vraiment jamais fait en profondeur, tu sais. Qui faisaient parce que leur entraîneur disait « OK, tu croises à gauche, tu croises à droite », mais d'aller en plus profond là-dedans, puis apprendre à vraiment avoir une meilleure glisse ou une meilleure capacité de faire des corps profonds. Il y avait jamais fait d'exercice là-dessus, puis ça, ils ont vraiment aimé ça, à notre grande surprise. Et puis, mais c'était un de nos buts, c'était de leur donner un petit peu plus de glisse, de fluidité puis de puissance là, en 20 mois.
En tout cas, ça a rapporté parce que la glisse était impeccable, les prouesses, les pirouettes, les portées, vous les avez amenées, puis c'était tellement deux styles différents, le couple français du couple canadien, c'était comme presque deux sports, on dirait, deux disciplines jusqu'à un certain point, c'était de toute beauté. On va faire une autre pause parce que là, je repartirai puis je vais être trop tard dans ma pause. Fait qu'on va la faire tout de suite parce que je veux vous parler. On parle de couple, de discipline en couple. Alors, j'aimerais ça aborder le sujet du couple. Qu'est-ce qui fait que certains se démarquent plus que d'autres? On revient tout de suite après la pause.
Mario Langlois rencontre au réseau Cogeco.
Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon sont nos invités cette semaine. On les a vus patiner, nous émerveiller là dans les années là de 2000 à un peu avant, même pas au-delà de 2008, les Jeux de 2004, les Jeux de 2008, les championnats du monde. Et là, on les a revus en plein écran de télévision avec nos médaillés d'or olympiques en danse, Tessa Virtue et Scott Moyer, avec nos médaillés d'argent, les Français qui vivent ici au Québec, dans Saint-Henri ou pas loin, en tout cas depuis une couple d'années. Et je voulais vous parler du couple. J'ai abordé le sujet au téléphone avec Patrice, en lui demandant le fait que Tessa et Scott soient ensemble depuis leur tendre enfance, est-ce que ça leur permet de nous faire ressentir des choses ou est-ce que ça leur permet de faire des choses, d'aller au-delà des autres? Vous autres, vous êtes un vrai couple dans la vie. Est-ce qu'il faut être un vrai couple dans la vie pour aller plus loin? Il y a des frères et sœurs également qui ont très bien performé. Comment vous voyez la notion de couple en patinage?
Je pense que de se trouver très, très jeune, comme Tessa Scott ont fait, ou même comme Gabi Guillaume ont fait, c'est l'idéal. Parce que t'apprends à te connaître. Eux se connaissent depuis qu'ils ont 6, 7 ans ou 7, 8 ans, je me souviens plus exactement. Mais tu sais, quand tu tiens la main de la même personne 4 heures par jour, 5 heures par jour, pendant toutes ces années-là, là, ils en étaient à leur 20e ou 21e année ensemble. Là, c'est comme, ils se devinent, ils se connaissent par cœur. Tous les hauts, les bas qu'ils ont vécu ensemble, ça les a rendus plus forts aussi. Et puis,
ils sont pas un couple, eux, dans la vraie vie.
Non, ils sont pas un couple. Ils ont toujours gardé...
On a presque envie qui s'embrasse après un numéro tellement c'est beau, puis on se dit, ouais, là, je sais pas comment vivre le conjoint ou la conjointe de l'autre, mais de voir ça ensemble, on dirait qu'il y a une chimie tellement grande que tu dis, hey, je peux pas me mettre entre ça, là, non?
Je pense que c'est un de leurs charmes à Tessa et Scott, c'est que tu les vois, puis tu as l'impression que c'est un couple, puis qu'ils ont tellement une chimie puis une connexion incroyable. Puis quand tu sais qu'ils sont pas, là, ça les rend encore plus intéressants parce que tu veux qu'ils soient ensemble. Puis tu veux, tu dis, ils vont-tu s'embrasser?
Non, mais c'est deux personnes qui sont complètement différentes. Leurs intérêts dans la vie qui sont, mais sont complémentaires.
Leur communion, c'est ça à glace.
Oui, c'est ça à glace. Et puis, ils ont gardé ça comme ça. Puis, je trouve ça vraiment bien parce que ça évite les petites chicanes de couple, tu sais, qui sont pas nécessaires, que certains de nos couples qui sont ensemble, on doit dealer avec ça aussi des fois. Mais
est-ce que les Français sont un couple, les jeunes Français? Non plus?
Non plus. Donc, puis eux aussi se connaissent depuis toujours et puis ça dépasse le frère et la sœur, là, cette entente-là, parce que, tu sais, c'est dur à expliquer. Il n'y a pas de mots pour décrire cette relation-là. C'est plus intense.
Tu parles de frères et sœurs, il y en a. Il y avait un couple de frères et sœurs chez les Américains. On se rappelle des Duchesne également, que vous avez sans doute connu même également. Il y a quelque chose, comme tu dis, là, c'est d'intangible, intangible. Je sais même pas comment mettre des mots là-dessus, mais il se passe de quoi, en tout cas, quand on regarde. Mais vous autres, là, justement, vous autres avez commencé à patiner ensemble. Puis à un moment donné, ben, le bec a eu lieu ou il s'est passé quelque chose? Est-ce que c'est après un numéro réussi? Comment ça s'est passé, vous autres, le déclic, là, avant que, officiellement, vous deveniez plus que des partenaires?
Ben, le déclic...
Ça a pris un an.
Ça a pris à peu près un an, puis... Dans ce temps-là, nos entraîneurs voulaient vraiment pas, ben, notre entraîneur voulait pas qu'on soit un couple. Ça, c'est encore plus le fun, en fait.
Est-ce que votre entraîneur sentait qu'il y avait de la chimie pour qu'il vous en parle, non?
Ben, c'est ça, mais on n'a pas été très, très bons pour le cacher longtemps. Donc, mettons que tout le monde alentour de nous, nos parents, nos amis, voyaient tout que ça s'en allait par là. Je pense qu'on a été les derniers mis au courant que ça s'en allait vers.
Comment tu l'as vécu, ça, toi, Patrice? Hein, parce que là, c'est Marie-France que j'entends, mais toi, comment tu sais quoi ta vision masculine du couple en patinage, en danse, puis votre histoire à vous autres, là, le déclic, t'en souviens-tu?
Oui, c'est sûr, je me rappelle du déclic. On était dans une compétition en Croatie, à Zagreb. Fait que oui, on s'en rappelle. Puis à chaque fois quand je retourne, on y retourne assez souvent pour faire des compétitions. Ça me rappelle toujours de cette première journée-là, première soirée.
En plus, c'était tout de suite après la guerre en Croatie. Tout de suite après la guerre, il avait quand même fait la compétition, puis tout le reste de l'équipe canadienne s'était désisté. On est les seuls à y avoir été.
Mais malade, vous
Ben oui, on a dit, on va y aller. Ça va être une belle expérience. Et puis, en fait, on s'est fait des très bons amis qu'on a toujours contact avec à Zagreb, puis on est devenu un couple là-bas.
Est-ce que comme entraîneur, partages-tu la vision de Marie-France ou de votre ancienne entraîneur, en ce sens que c'est plus facile de travailler avec des gens qui ne forment pas un vrai couple dans la vie, ou tu vois pas de différence?
Ben, ça dépend. Mais ça arrive très, très souvent que les couples qui sont un vrai couple dans la vie, ben, les chicanes qu'ils ont à la maison, mais ils les apportent sur la glace. Fait que, ils arrivent souvent, tu vois, ils vont arriver sur la glace, puis tu vois déjà qu'ils se parlent pas ou qu'il y a déjà une tension entre les deux. Fait que c'est sûr que c'est dur à gérer.
Avant de commencer à patiner, tu vois qu'il y a quelque chose, là.
Ça rend souvent les choses plus dures. Fait que je peux comprendre les entraîneurs qui veulent pas que leur couple sorte ensemble, mais nous, on n'a jamais dit à un couple, non, vous sortez pas ensemble.
Ben, surtout que vous seriez un très mauvais exemple, parce que vous autres, vous êtes encore ensemble depuis le déclic à Zagreb en Croatie, vous êtes encore ensemble. Fait que la question toute logique, comment vous faites, comment vous avez fait pour, puis en plus de votre carrière de patineur, de poursuivre ensemble comme entraîneur. Là, les gens sont tout ouïes, ils veulent savoir comment ça marche.
Je sais pas comment ça marche. Mais je pense que ça marche quand on a une vision puis des buts très précis en commun. Mm-hmm. Puis après, faut accepter qu'on est différent. Puis lui, des fois, sa façon qu'il pense y arriver, puis moi, la mienne, c'est pas nécessairement la même. Sauf que si le but puis l'engagement est le même, ben on se rejoint quand même là-dedans. Puis il faut... Faut écouter beaucoup, puis faut respecter beaucoup l'autre personne pour que tout ça marche. Mm-hmm. Et un homme puis une femme, ça pense pas pareil. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup appris aussi dans notre entraînement, c'est que un gars, de la façon que ça aborde les entraînements ou le travail physique, c'est très différent qu'une femme. Puis on est un des seuls sports qui, justement, combine un homme et une femme qui s'entraînent à la même tâche, là. Fait que c'est ça.
Fait que d'être un couple d'entraîneurs, c'est un plus, d'une certaine façon. Vous travaillez avec des couples, il y a le pendant masculin, le pendant féminin, la même expertise. C'est vrai, parce que souvent on voit un entraîneur, vous êtes un duo d'entraîneurs.
Ben, je pense que oui, ça nous aide. Je veux dire, en même temps, ça nous aide peut-être un peu moins dans notre vie de couple, mais dans notre vie d'entraîneur, le fait que on est... C'est vraiment important dans une équipe d'entraîneurs, c'est la communication. Faire sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde, puis que tout le monde travaille dans la même direction. Mais vu que nous, on rentre à la maison ensemble le soir, puis qu'on est ensemble le matin, fait qu'il
y a des échanges, il peut y avoir des échanges.
C'est moins bon pour la vie de famille parce qu'on se retrouve toujours à parler du travail, mais...
Non, notre fille aime pas bien ça. C'est elle qui fait « OK, stop! »
Stop! On ne parle plus de patinage, non?
C'est bon pour la vie professionnelle.
Ouais. Mais sans entrer là, dans le détail, parce que c'est votre vie privée, puis ça vous appartient, mais... Je veux dire, quand vous patinez comme compétiteur, comment la relation se passait par rapport à aujourd'hui comme entraîneur? Je veux dire, parce que tout ça vous a préparé à ce que vous êtes aujourd'hui, mais est-ce que c'est...
Oui, bien, la grosse différence aussi, c'est que dans le temps qu'on avait notre carrière, nous autres, on micro-manageait pas mal nos affaires. On a commencé à être entraîneur pendant qu'on compétitionnait quasiment, là, tu sais. Mais on gérait notre carrière, puis tout tournait alentour de nous, quoi. Tu sais, c'est... ce qu'on mangeait, comment qu'on dormait, le temps de récupération, tout tournait alentour de nous, notre carrière. Là, maintenant, tout tourne alentour de la carrière de tout le monde. C'est comme, là, on est les...
Je trouve ça difficile parce que comme athlète, tout tourne autour de soi.
Ça, c'était le gros ajustement en fait à faire, c'est que.
Qui a eu plus de misère, Marie-France ou Patrice, par rapport à ça, ou les deux, vous l'avez vécu
pareil? Sûrement moi. Sûrement moi. Ouais, c'est sûr, parce que...
Faut voir ta face en te voyant répondre. Là, je pense que vous souririez, tout le monde, de voir Marie-France. Épilogue, explique un peu.
Je vais expliquer un peu, c'est ça. Parce que, bon, c'est très égoïste d'être un athlète de ce niveau-là. Élite, c'est très, très égoïste. Tu penses juste à toi. Quand tu deviens, un, maman, puis deux, entraîneur de très haut niveau, là, tout est par rapport à tout le monde et pas par rapport à moi. Puis c'est correct, mais c'est un ajustement quand même.
Fait que Patrice, toi, t'as-tu besoin de retrouver les boys un petit peu pour prendre de l'air, non?
Ah non, mais moi, c'est quelque chose qui est naturel pour moi de vouloir aider les gens, de vouloir prendre soin des autres, materner les...
D'être bienveillant.
Materner, peut-être.
D'être bienveillant.
D'être bienveillant, c'est très naturel
c'est
pour moi.
C'est un conche dans l'âme.
Fait que pour moi, ça se fait. Je m'oublie facilement.
Et est-ce que c'était utile comme patineur? Je veux dire, dans les couples que vous entraînez, les meilleurs au monde, est-ce qu'il y en a un des deux qui doit justement avoir cette capacité-là d'absorber les émotions, les tracas ou quoi que ce soit, ou le yin et le yang, là, comment vous voyez ça? De par votre expérience et de tous les couples que vous entraînez?
Oui, ben tout le monde a besoin d'un peu d'amour puis d'un coup de fouet, tu sais. Non, mais c'est une façon de parler, mais je veux dire, ils ont besoin de se faire pousser pour dépasser ce qui est confortable puis se dépasser comme ça. Mais on a besoin aussi de leur faire faire avec de la compréhension, avec de l'amour, en leur donnant confiance, puis tu sais, de cette façon-là, parce qu'on faut pas oublier qu'on entraîne des êtres humains, puis tout ce qu'on leur coach, ça va leur rester vraiment passer leur carrière après, là, tu sais.
Oui, le yin et le yang est très important. Nous, on est très, très, très différents. Puis ce qu'un apporte, puis l'autre, on se complète. C'est pour ça que notre coaching puis notre école marche. Puis les bons couples, mais sont tous pareils aussi. Les très, très, très bons couples sont tous très différents. Et de là que historiquement, dans l'histoire, il y a des couples, des chicanes qui ont, là,
Vous avez vu des bons
carrières. Oui, c'était quelque chose, mais ceux qui réussissent à être bons, ils réussissent à garder ce contrôle-là, puis vivre sur on the edge. Puis, comme Tessa et Scott, c'est complètement deux opposés. Elle est très, très calme, toujours posée, toujours souriante. Puis Scott, c'est le feu, puis l'énergie. Puis on l'a vu justement.
Les hauts, les bas.
On l'a vu à la game de hockey, justement.
Il exprimait son mécontentement au travail des officiels. Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon sont avec nous. On vous revient pour la conclusion de cet entretien. On va parler de ce qui est devenu votre après-carrière, votre entreprise, en quelque sorte, de l'état du patinage également au pays. On revient dans un petit moment.
Mario Langlois rencontre au réseau Cogeco.
Nous voilà pour la suite et déjà la conclusion de cette entrevue que nous accordent aujourd'hui Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon. Il y a des championnats du monde qui s'en viennent en 2020 à Montréal. Ça va être grand et gros. Vous devez être
au Centre Bell, on est super contents.
C'est excitant, ça.
Ouais, on est super contents. Puis bon, c'est sûr que c'est le milieu d'un cycle olympique. Mais en 2020, ça va commencer à se dessiner un peu. C'est qui va être à surveiller pour les Jeux olympiques à Beijing. Oui. Donc, ça va être intéressant.
Vous allez être à la maison, puis vos couples seront à la maison pour ces championnats-là également, s'ils continuent tous de s'entraîner avec vous autres. Là.
Oui, ça risque d'être super le fun. En plus, il y a des bonnes chances que la patinoire d'entraînement va peut-être être même notre centre d'entraînement. C'est supposé être à Verdun, mais on n'est pas encore sûr si la patinoire va être finie à temps, parce que là, les travaux sont même pas encore commencés. Ça va être vraiment le fun d'être à Montréal. Ça s'est jamais arrivé. Il n'y a même jamais eu de championnat canadien ou grosse compétition à Montréal. Il va y avoir un Skate Canada l'automne prochain à Laval. Ça va être la première fois qu'il va y avoir une grosse compétition d'envergure dans la région de Montréal. Puis après, ensuite, il va y avoir les championnats du monde. Ça promet.
Là, il doit y en avoir, je ne sais pas combien, comment ça se produit, comment ça se passe exactement, mais quand on voit nos athlètes avoir de si belles performances, j'imagine que partout au pays, le téléphone sonne dans les clubs de patinage artistique. La danse, est-ce qu'il y a beaucoup de patineurs en danse au Canada et au Québec? Est-ce qu'il y a une grosse relève?
Il y a quand même une relève, mais c'est vrai qu'on a du mal à avoir des petits gars qui font du patinage. Ça, c'est
encore aujourd'hui.
Ouais, ouais, là, on a pris un petit peu en charge le CPA Gadebois, justement, pour essayer de faire du développement, du recrutement. On a besoin de commencer à développer des jeunes, puis aussi des jeunes garçons, parce que c'est sûr que... Il n'y en a pas beaucoup.
Dans quelles circonstances tu avais commencé, toi, Patrice? Parce que ça a toujours été, je pense, le défi du sport en couple. C'est souvent de trouver l'homme, le gars du couple. Je pense que toi-même, à un moment donné, vous vous êtes cherché. Toi, tu avais une partenaire qui avait eu un accident de la route, je me souviens bien aussi. Fait que toi aussi, tu te cherchais une partenaire. Hein? C'est pas des...
Oui, c'est jamais facile de trouver des garçons. Puis, je pense, moi, j'ai commencé parce que ma mère me truquait un peu en me disant, ma sœur faisait du patin. Elle faisait, je pense que ça t'aiderait pour ton coup de patin.
Tu seras, parce qu'il joue au hockey.
Puis, je pense que tous les garçons que je connais, c'est comme ceux qui ont commencé. C'était pour améliorer leur coup de patin. Puis finalement, tu te rends dans le patin, puis soit tu tombes en amour avec, ou soit tu te rends compte qu'il y a beaucoup de filles, ou tu te rends compte que... ou tu te rends compte... C'était du succès, t'as du succès, puis c'était individuel. Fait que c'est très différent que d'avoir du succès avec une équipe. Puis en plus, dans le patin, mais quand les jeunes commencent, les garçons commencent, sont souvent, il n'y en a pas beaucoup, fait que c'est assez facile d'avoir du succès. Fait que quand il y en a un qui commence, le plus du temps, on les garde, mais c'est les amener vers le patin qui n'est pas toujours facile.
Il y a aussi le short track qui est populaire à Montréal. À Gadebois, il y a aussi une école de short track. Je me rends compte qu'ils ont pas mal plus de petits gars dans le short track qu'en patin. Je sais pas, il y a encore peut-être un petit peu de tabou alentour des garçons qui font du patinage, ce qui est dommage.
Mais qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Il y en a qui nous écoutent en ce moment dans l'auto, qui reviennent d'un match de hockey. Je sais pas c'est quel âge maximum, mais tu sais, il y a de quoi faire rêver quand même la possibilité d'aller participer à des compétitions d'envergure comme celle auxquelles on assiste. Puis il y en a des bons patineurs partout au pays. C'est de choisir le bon sport parfois, mais tu sais, comme homme, toi, qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui jongle avec l'idée, mais qui est pas sûr d'avoir envie de... Je sais pas pourquoi, mais qui a des freins un petit peu, là.
Ben, moi, je pense que c'est vraiment un des plus beaux sports au monde parce que c'est un des seuls sports qui mixe le côté artistique et le côté sportif. Et pouvoir se développer autant en tant qu'athlète qu'autant qu'en tant qu'artiste, puis de travailler justement sur sa créativité, puis son expression, puis travailler sur plein d'autres domaines que tu travaillerais pas dans un autre sport, c'est vraiment un sport particulier.
Puis en fait, en ce moment, la danse, c'est quand même assez populaire avec toutes les shows de télé qu'il y a sur la danse, comme Dancing with the Stars. Là, on en a même des nouveaux shows québécois qui est sur la danse. La danse, c'est quelque chose de très populaire en ce moment chez les jeunes, mais la danse sur glace, c'est une autre version de ce qu'on voit à la télé, puis on travaille de plus en plus avec des chorégraphes de hip-hop contemporain pour vraiment, notre but, c'est d'actualiser la danse sur glace pour que ça touche les jeunes directement, tu sais, qu'ils puissent danser sur la musique qu'ils écoutent puis qu'ils aiment, puis ça, c'est un peu notre mission en ce moment.
Le hockey, on dit que c'est devenu un sport qui est de plus en plus ou qui est plus difficilement accessible compte tenu des coûts assez exorbitants quand on fait partie de l'élite. Est-ce que cette réalité-là est la même en patinage artistique? Est-ce que ça coûte cher se développer?
Oui, ça coûte très cher.
En couple, au moins, c'est divisé par deux. Ouais. Ceux qui patinent seuls, ils absorbent tout seuls le coût des entraîneurs qui est normalement à l'heure en plus.
Mais tout sport qui est fait moindrement à haut niveau devient très, très, très cher. Mais ce qui est le fun justement du patin qui se retrouve un peu moins au hockey ou d'autres sports d'équipe, c'est que tu peux devenir un entraîneur de patin si tu veux. Tu peux,
et donc, au moins, financer en partie ton développement.
Oui, puis ça peut t'aider à financer ton développement. Puis aussi, il y a une carrière après. Tandis que si tu veux devenir entraîneur de hockey, tu vas avoir beaucoup d'années de bénévolat avant d'un jour peut-être rentrer dans la Ligue nationale puis là être payant. Mais tandis qu'au patin, tu peux aider avec la moindre carrière, le moindre niveau, tu peux commencer à pouvoir entraîner puis pouvoir faire ça comme travail si tu veux ou faire autre chose ou t'aider à payer tes études.
Vous avez créé votre entreprise, vous êtes vos propres... C'est qui le patron? J'allais dire, vous êtes vos propres patrons. Oh, la question que... Non,
non, pas ça.
OK, j'enchaîne. Mais ça présente combien de personnes qui travaillent avec vous ou pour vous à l'École de patinage international de Montréal?
Ben, en fait, on est nous, on est les head coach, les entraîneurs principaux, mais on a un troisième entraîneur aussi qui s'appelle Romain Hagenauer. Romain faisait partie de l'école de Lyon où on s'entraînait. puis il a joint notre école en 2015. Donc, depuis que Romain est là, c'est vraiment là que notre école internationale a explosé. Ça l'a attiré du monde de l'Espagne, du Japon, Danemark,
des spécialistes, des psychologues, puis... Il y a pas mal de monde qui tourne autour de l'école. Là.
Oui,
on a 5 entraîneurs sur la glace. On a un prof de ballroom qui s'appelle Ginette Cournoyer. On a un prof de hip-hop, danse contemporain qui s'appelle Sam Chouinard. On a un prof de théâtre. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a
des entraîneurs physiques.
Patrice et Marie-France, ben j'ai envie de vous dire bon retour parce que vous débarquez à peine de l'avion. Même si le boulot vous attend avec des compétitions très prochainement. Merci d'être venu partager un peu de ce qu'est votre monde à l'école de patinage et dans le monde du patinage. Ça a été vraiment un plaisir de passer cette heure avec vous.
Merci.
Merci beaucoup. C'était Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon. J'espère que vous avez passé de bons moments avec nous. Je vous donne rendez-vous lundi pour notre prochain rendez-vous aux amateurs de sport. Bonne fin de journée.